aux êtres humains que tu as créés, et tu le fais à travers ta parole, la Bible, qui nous révèle Jésus. Et on te prie que dans les moments qu'on va passer ensemble, on puisse voir davantage qui est Jésus, on puisse apprendre de qui tu es, que tu puisses parler à nos cœurs à travers la prédication de ta parole, que tu puisses nous rendre attentifs à cela. Et je te prie que tu puisses m'équiper pour que je puisse transmettre ta parole avec fidélité, avec crainte, avec humilité. Et tout ça, on le prie pour la gloire de Jésus. En son nom. Amen. J'ai une question pour vous, pas à répondre à haute voix, mais à réfléchir, à répondre peut-être dans vos têtes. Une question, qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre la foi chrétienne plus impressionnante? Qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre la foi chrétienne plus impressionnante? Est-ce qu'il faudrait des églises qui se réunissent dans des plus grands bâtiments, dans des grandes cathédrales avec une architecture magnifique pour qu'en rentrant, on en ait plein les yeux et qu'on soit émerveillé? Ou est-ce qu'il faudrait plus de rites religieux, plus de signes visibles pour que l'on puisse voir de manière concrète, de manière visible, les réalités de la foi chrétienne? Ou peut-être il faudrait tout simplement plus de chrétiens. Il faudrait des foules entières, des milliers de personnes, des stades remplis. Et là, waouh, là, la foi chrétienne serait vraiment impressionnante. Qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre la foi chrétienne plus impressionnante? Le passage qu'on va étudier ensemble ce matin dans Hébreux 12 répond à cette question en disant qu'il n'y a rien besoin de plus pour rendre la foi chrétienne plus impressionnante. Ce qu'il faut simplement, c'est regarder derrière les rideaux. Ne pas s'arrêter à l'aspect visible, à l'aspect extérieur, mais regarder ce qu'il se passe réellement, même si on ne le voit pas. Regarder, réaliser les réalités spirituelles qui sont en jeu, alors qu'en tant qu'individu et qu'en tant qu'Église, on s'approche de Dieu par la foi en Jésus. Et ça, nous dit ce passage, ça, c'est vraiment impressionnant, comme on va le voir. Dans ces versets, l'auteur veut montrer que ce que Jésus nous apporte est bien meilleur que tout, et que ce serait insensé et dangereux de s'en détourner. Ce que Jésus nous apporte est bien meilleur que tout, et ce serait insensé et dangereux de s'en détourner. Et c'est un peu comme si l'auteur, il avait un seul message, un seul avertissement pour ces chrétiens à qui il écrit. Regardez avec moi le verset 25. Le verset 25 de Hébreux 12, il écrit « Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. » C'est un avertissement assez fort, assez sévère. Et comme on l'a vu dans les semaines précédentes, ces chrétiens d'origine juive, ils s'étaient engagés dans la course chrétienne et ils faisaient face au découragement, à la fatigue, au risque de se relâcher et même à la tentation de retourner en arrière. Donc l'auteur écrit toujours dans ce contexte-là pour les encourager à persévérer dans la vie chrétienne, dans la course chrétienne, à ne pas abandonner Christ. Et dans notre passage, il va le faire de deux manières. Il va le faire d'abord en montrant pourquoi la foi chrétienne est la meilleure chose qu'il soit, et ensuite pourquoi se détourner de la foi chrétienne, c'est la pire chose qu'il soit. Et vous avez ces deux choses au dos du feuillet qui vous a été distribué pour voir le plan qu'on va suivre dans la prédication. Donc d'abord, dans les versets 18 à 24, pourquoi la foi chrétienne est la meilleure chose qu'il soit. Pourquoi la foi chrétienne est la meilleure chose qu'il soit. En fait, tout au long de cette lettre aux Hébreux, l'auteur il a fait ressortir les contrastes entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, en lui donnant des lois à suivre et à respecter. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Jésus a apportée. Et le but de toute cette lettre aux Hébreux, c'est de montrer que la nouvelle alliance que Jésus a apportée, elle est bien meilleure, bien plus excellente que l'ancienne. Pas pour dire que l'ancienne alliance est mauvaise, mais pour dire qu'elle n'était pas une finalité. Ce n'était pas un point final, mais c'était un deux points. C'était là pour nous amener vers Jésus, vers quelque chose de bien plus grand et de meilleur. Et dans ces versets, on arrive un peu au point culminant de la lettre. C'est un peu comme si l'auteur, il voulait rassembler tout ce qu'il avait dit jusque-là dans cette lettre aux Hébreux pour faire ressortir encore plus le contraste, pour montrer que ce serait insensé de rester avec l'ancienne alliance parce que la nouvelle alliance en Jésus est largement meilleur. Et il va faire ce contraste en parlant de deux groupes de personnes qui s'approchent de deux montagnes différentes. D'un côté, il y a le peuple d'Israël qui s'est approché du mont Sinaï quand Dieu a donné les 10 commandements. Et de l'autre côté, il y a ces chrétiens hébreux qui se sont approchés de la montagne de Sion, c'est-à-dire qui se sont approchés de Dieu par la foi en Jésus, comme on va le voir. Et d'un côté, on a un spectacle terrifiant au Sinaï, et de l'autre côté, on a un rassemblement céleste et glorieux. On a un vrai contraste entre les deux. Les versets 18 à 21 font référence à ce qui s'est passé au mont Sinaï, après que Dieu ait fait sortir le peuple d'Israël et quand Dieu a conclu une alliance avec le peuple. C'est ce qu'on a lu dans Exode 19 tout à l'heure. Dieu s'est révélé à eux dans une nuée sur cette montagne. Mais comme on le voit dans ces versets et comme on l'a lu tout à l'heure, c'est un spectacle terrifiant, terrifiant. Imaginez-vous, vous êtes face à une grande montagne et puis tout d'un coup, elle se met à trembler. Vous voyez des éclairs qui tombent, vous voyez du feu, vous voyez de la fumée, vous entendez des bruits de trompettes, pas des trompettes qui vont jouer du jazz, mais des trompettes qui font du bruit de plus en plus fort, et puis tout d'un coup, une grande voix qui retentit. C'est un spectacle terrifiant, ça fait peur. Et c'est pour ça que les Israélites ne voulaient plus entendre la voix de Dieu, comme on voit à la fin du verset 19. Ils avaient tellement peur de ce qui se passait. Et en fait, même Moïse lui-même, le chef du peuple, celui qui devait être le médiateur, il est tremblant de peur, on voit ça. Avec le verset 21, l'auteur écrit dans Hébreux 12, 21, « Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Imaginez que vous faites une randonnée en pleine campagne, et puis c'est à la tombée de la nuit, et la nuit commence à tomber, vous êtes loin de chez vous, vous avez un peu peur, mais vous vous dites « Bon, il y a un guide qui est là, il sait me ramener chez moi, il sait où on est, il n'y a pas de problème. » Mais tout d'un coup, le guide vous dit « Ah, on est perdu, je ne sais plus où on est. » Ben là, vous êtes vraiment mal barré. Si même le guide, il ne sait plus où on est, vous pouvez avoir peur. Et c'est un peu la même chose ici. Même Moïse, celui qui parlait avec Dieu, celui qui a séparé la mer rouge en deux, celui qui a conduit le peuple dans le désert, même lui, il est tremblant de peur face à cette révélation de Dieu. Ça nous montre combien ce spectacle au Mont Sinaï était terrifiant, terrifiant. Et si on regarde de plus près ces versets 18 à 21, on voit qu'il n'est même pas mention de Dieu dans tout ça. Les Israélites se sont approchés, mais pas de Dieu lui-même au sens fort du terme. C'est comme si l'auteur voulait juste mentionner les choses impressionnantes, les choses terrifiantes, pour souligner le fait que Dieu est inaccessible en raison de sa sainteté. Le fait que toutes ces choses se passent, c'est parce que Dieu se révèle dans sa sainteté, le feu, le tremblement de terre, les éclairs, le tonnerre. Un spectacle terrifiant. Et ce spectacle terrifiant, il contraste totalement avec l'autre scène qu'on a de l'autre côté, avec l'autre montagne de laquelle les chrétiens s'approchent par la foi en Jésus, la montagne de Sion. Et c'est un peu comme si l'auteur écrivait pour dire « Mais regardez, c'est bien meilleur, regardez, c'est bien meilleur. » Au début du verset 22, il écrit « Vous vous êtes approchés ». Ça fait référence à quelque chose qui s'est passé dans le passé, ça fait référence à la conversion de ces chrétiens. En devenant chrétiens, ils se sont approchés de quelque chose de bien plus grand. Ils ont pris part à une réalité bien plus glorieuse qui les dépasse. Contrairement au verset précédent, contrairement au Mont Sinaï, ici, dans ces versets, il n'est pas question de choses visibles qu'on peut toucher. Mais on s'est quand même réellement approché de ces choses, même sans les voir ou les toucher, par la foi. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure et ce qu'on voit dans Hébreux 11, le verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'empêche pas que les choses soient réelles. Et de quoi est-ce qu'on s'est approché? Verset 22. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un peu tout ce langage étrange, un peu mystérieux. Mais en fait, quand on devient chrétien, on prend part à un rassemblement céleste. Une réalité invisible, mais réelle et glorieuse. Sion ou Jérusalem, dans l'Ancien Testament, c'est l'endroit terrestre que Dieu avait choisi pour faire résider son nom, comme son lieu de résidence. Mais c'est aussi le nom de la ville promise, pas dans le sens d'une ville terrestre, mais dans le sens d'une ville céleste qui nous attend. Et c'est de ça dont il est question ici. C'est pour ça qu'il est dit aussi, il est parlé de la Jérusalem céleste dans le verset 22. L'auteur avait déjà parlé de ça aussi dans le chapitre 11, par rapport à la nuée de témoins, en disant que cette nuée de témoins, il désirait une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi en Jésus, on est devenu citoyen de cette cité, habitant de cette patrie céleste. Et on n'est pas seul, on rejoint un rassemblement céleste, des dizaines de milliers d'anges qui sont là, et qui adorent Dieu. Les premiers-nés inscrits dans les cieux, c'est-à-dire tous les croyants du passé, tous ceux dont le nom est inscrit dans les cieux, que Dieu a sauvés, que Dieu a rachetés, et qui sont dans cette patrie céleste. On rejoint tous les témoins de la foi, qui ont achevé la course. Peut-être vous dites, mais pourtant j'y suis pas encore physiquement, comment est-ce que ça se fait? C'est vrai, on va voir ça plus tard. Mais on peut déjà voir ça et observer le contraste énorme qu'il y a avec le spectacle terrifiant du Sinaï. Ici, ce rassemblement, il est plutôt caractérisé par la joie, par le repos, par la paix, par la perfection. C'est quelque chose de bien meilleur. Regardez, c'est bien meilleur. Mais non seulement ça, mais ça va encore plus loin que ça. On s'est approché de Dieu lui-même. On a un accès plein et entier à la présence de Dieu. Au verset 22, l'auteur écrit qu'on s'est approché de la cité du Dieu vivant. C'est la ville de Dieu, là où il habite, là où il est présent. Alors bien sûr, Dieu est présent partout, il est ici à Bruxelles en ce moment et en même temps à l'autre bout du monde. Mais c'est pour nous montrer que dans cet endroit céleste, Dieu est présent de manière particulière. Et c'est un contraste frappant avec le Sinaï où le peuple ne pouvait même pas toucher la montagne. Le peuple ne pouvait même pas supporter la voix de Dieu. Tellement c'était terrifiant. Mais par la foi en Jésus, on a un accès complet à la présence de Dieu. Et le verset 23 montre, on s'est approché de Dieu, juge de tous. Par la foi en Jésus, on ne s'approche pas simplement d'une montagne ou d'un lieu physique, mais de Dieu lui-même, de Dieu lui-même. Regardez, c'est bien meilleur. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel contraste entre ces personnes au Sinaï et puis nous, aujourd'hui, comment ça se fait qu'on peut s'approcher de Dieu sans crainte, contrairement à ce spectacle terrifiant? Mais la réponse se trouve dans le verset 24. C'est grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Contrairement à Moïse, Jésus est un médiateur parfait entre les hommes et Dieu, parce qu'il est lui-même à la fois vraiment homme et à la fois vraiment Dieu. Il peut donner un accès parfait, entier à Dieu, en raison de son sang qui a été versé. C'est ça qui change tout. Le sang de Jésus nous donne le pardon que tous les sacrifices dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas nous donner. Sous l'Ancienne Alliance, le sang coulait sans arrêt. Des animaux étaient sacrifiés pour prendre la punition que le peuple méritait en raison de sa rébellion contre Dieu, en raison de son péché. Et ces sacrifices, ils étaient répétés, 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 sans arrêt. Parce que le peuple continuait de pécher, de pécher, de pécher, sans arrêt. Et à chaque fois qu'un péché était commis, il fallait qu'un nouveau sacrifice ait lieu. Parce que ces sacrifices ne pouvaient pas régler définitivement, donner un pardon parfait et entier. Et puis Jésus est venu. Il s'est offert en sacrifice, une fois pour toutes, par sa mort sur la croix. Il a pris sur lui le jugement de Dieu qu'on mérite, et son sacrifice est parfait. Il donne vraiment le pardon plein, entier, à tous ceux qui se confient en lui. Il règle définitivement le problème du péché. Il apporte réellement une relation restaurée avec Dieu, pour toujours. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui est vraie pour chacun de nous, qui est vraie pour vous aussi, qui vous soyez. Peut-être que vous venez dans cette église pour la toute première fois, ou alors peut-être que vous venez depuis des années, vous fréquentez cette église. Mais c'est une bonne nouvelle qui est vraie pour vous. On a tous besoin du pardon des péchés. On a tous besoin d'un cœur nouveau, parce qu'on fait tous face au jugement de Dieu, en raison de nos péchés, en raison de notre cœur qui est mauvais. Fréquenter une église, adhérer à un mouvement religieux, s'efforcer de faire le bien, ces choses ne peuvent pas nous donner le pardon. Ces choses ne peuvent pas changer l'état mauvais de notre cœur. Seul le sang de Jésus peut nous apporter ce pardon. Je vous encourage donc à considérer la foi chrétienne, à considérer ce Jésus, pour trouver en lui le pardon dont vous avez tant besoin. Et si ça vous intéresse, vous pouvez venir au parcours découverte qui commence demain soir. On va étudier justement le cœur du message du christianisme ensemble. Regardez. C'est bien meilleur. Voilà le contraste que l'auteur fait entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, entre ce qu'on a sans Jésus et ce qu'on a avec Jésus. Et on voit clairement que ce qu'on a avec Jésus, c'est bien meilleur que ce qu'offre le judaïsme, même si ce n'est pas des choses qu'on peut toucher, ou même si ce n'est pas des choses qui semblent impressionnantes à première vue. C'est bien meilleur. Et donc, ce serait insensé de se détourner de Jésus, parce que la foi chrétienne est la meilleure chose qui soit. Pas nécessairement en termes de choses visibles, palpables, mais si on prend le temps de regarder ce qu'il y a derrière, si on prend le temps de considérer les réalités spirituelles, alors c'est bien meilleur que tout. J'ai reçu récemment des nouvelles de la part d'amis qui sont missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils sont allés implanter une église parmi un peuple qui n'avait jamais entendu parler de l'évangile il y a quelques années. Et c'est vraiment encourageant de voir ce qui s'est passé là-bas par la grâce de Dieu. Quand ces gens ont entendu l'évangile, plusieurs ont cru en Christ, ont trouvé le pardon de leurs péchés, sont devenus chrétiens. Et c'est super encourageant d'entendre les témoignages de ces personnes qui vivent dans la misère, qui ont vraiment rien de ce que le monde pourrait offrir, mais qui témoignent de cette foi en Jésus. Et j'ai été marqué par le témoignage d'une sœur qui s'appelle Brigitta, qui dit ceci. « Tant que nous serons sur cette terre, nous vivrons dans la douleur et le travail pénible. Nous n'avons pratiquement rien, mais peu importe vraiment, car nous avons ce qui compte le plus, le salut en Jésus. Rien dans ce monde ne peut se comparer à ce que Jésus nous offre. Rien. Nous sommes plus riches que beaucoup. Même si ce n'est pas impressionnant d'un point de vue humain, la foi chrétienne est ce qu'il y a de meilleur. Et ce serait donc insensé de s'en détourner. D'où l'avertissement de l'auteur dans ce passage en particulier, mais aussi dans la lettre aux Hébreux en général. Imaginez que vous habitez dans le sud de la France, juste à côté de la mer Méditerranée, à deux pas de la mer Méditerranée, vous pouvez sortir de chez vous, marcher, et puis plonger dans la mer. C'est magnifique. Mais maintenant, ce serait insensé pour vous de rester dans votre jardin à jouer avec un bac d'eau. Ça n'aurait aucun sens. Vous avez la mer Méditerranée à côté de chez vous, vous pouvez plonger dedans, vous n'allez pas jouer avec une petite bassine d'eau. Ce serait insensé. Et c'est la même chose avec ces chrétiens hébreux. Retourner en arrière n'aurait pas de sens, parce que la foi chrétienne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça n'aurait aucun sens de faire marche arrière, de perdre des choses. Et c'est pareil pour nous. Est-ce qu'on se rend compte, en tant que chrétiens, membres de cette, qui fréquentons cette église de Woluwe, des privilèges que nous avons? Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe quand on se réunit ensemble, comme ce dimanche matin? C'est pas juste une petite poignée de chrétiens noyés dans la masse d'habitants à Bruxelles qui chantent du mieux qu'ils peuvent. Non, c'est plus que ça. C'est un aperçu d'une réalité spirituelle bien plus grande qui nous dépasse. On prend part à ce rassemblement céleste et glorieux. C'est un reflet terrestre de ce rassemblement qui a lieu en ce moment même. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Ce serait insensé de se détourner de ça. Ce serait insensé. Et ça nous amène à la suite du passage, à notre deuxième point, où l'auteur montre non seulement pourquoi ce serait insensé de s'en détourner, mais aussi pourquoi ce serait dangereux de le faire. Il va montrer pourquoi se détourner de la foi chrétienne, c'est la pire chose, qu'il soit dans les versets 25 à 29. Juste après ce portrait de la grandeur de Jésus qu'on a vu dans les premiers versets, l'auteur va donner l'avertissement dont on a parlé au début. Au verset 25, il écrit « Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous pas y échapper, nous-mêmes, si nous nous détournons de celui qui, des cieux, nous avertit. » Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on voit le peuple d'Israël rejeter la voix de Dieu, ne pas écouter Dieu, en faire qu'à sa tête. Et ça a eu des conséquences terribles. Et si l'auteur donne cet avertissement de manière très sobre, très directe, c'est parce que les conséquences de rejeter la voix de Dieu maintenant seraient bien plus grandes que pour le peuple d'Israël dans le désert. La lettre aux Hébreux a montré que, après avoir parlé de différentes manières, bon, comme dans l'Ancien Testament, Dieu aujourd'hui parle à travers son Fils, Jésus. C'est ce qu'on voit dans les tout premiers versets de la lettre aux Hébreux. Versets 1 et 2, il écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Jésus est la révélation ultime de Dieu. Et se détourner de cette révélation de Dieu aurait des conséquences bien plus graves, parce qu'elle est meilleure et bien supérieure, comme on l'a vu. Donc l'auteur leur dit, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Comme on l'a vu tout au long de cette série de prédications, ces chrétiens, ils étaient face à la tentation de retourner en arrière au judaïsme qu'ils avaient quitté. Et donc ce passage, c'est à la fois un encouragement et un avertissement pour eux. C'est un encouragement, comme on l'a vu, parce que ça montre que ce qu'ils ont en Jésus, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils pourraient avoir ailleurs. Et que ce serait insensé de quitter ça. Il leur dit, ne passez pas à autre chose. Pourquoi chercher ailleurs ce que seul Jésus peut vous donner? Mais c'est aussi un avertissement, parce que ça leur montre que ce serait dangereux de le faire. Ça ne serait pas sans conséquence. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Alors on n'est probablement pas dans la même situation que ces chrétiens hébreux, et peut-être qu'on pourrait se dire, ah mais cet avertissement, ce n'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Mais si, c'est un avertissement valable pour nous aujourd'hui. Chrétiens au XXIe siècle, ne devenons pas insensibles à la voix de Dieu, au Dieu qui nous parle à travers sa parole. Peut-être qu'on vient à l'église depuis longtemps et on est dans la foi chrétienne depuis des années, on est habitué à lire notre Bible, à écouter des prédications dimanche après dimanche, et on court le risque de devenir insensible à la voix de Dieu, de faire des choses de manière mécanique et sans prendre en compte ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Ne laissons pas notre cœur devenir insensible. Quand on est repris dans notre conscience par la parole de Dieu, ne mettons pas ça de côté pour passer à autre chose. Prenons plutôt ça au sérieux. Prenons le péché au sérieux, parce que Dieu prend le péché au sérieux. Comme on voit dans le verset 29, Dieu est aussi un feu dévorant. Pas un Dieu cruel et cynique, mais un Dieu qui ne peut pas tolérer le mal. Quand on est repris dans notre conscience, dans une prédication, ou alors qu'on lit notre Bible chez nous, on a deux solutions. Soit on met ça de côté, on passe à autre chose, on continue notre journée comme si de rien n'était. Ou alors, on prend ça au sérieux. On règle la chose, on se place devant Dieu. On se met à l'écoute de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et on agit en conséquence. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Ou peut-être qu'on est tenté de rechercher une foi chrétienne plus visible, plus impressionnante. Parce qu'il faut avouer que la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose de visible en soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher ou qu'on peut représenter de manière visible. On ne va pas dans un musée pour admirer le pardon des péchés. Ça n'existe pas comme ça. Et face à ça, on a le danger d'être plus impressionné par les réalités terrestres que par les réalités spirituelles. Un grand bâtiment, une foule de personnes, ça nous semble plus impressionnant. Forcément, Dieu doit être plus présent ici, si c'est plus impressionnant d'un point de vue humain. Mais on ne doit pas évaluer la foi chrétienne en fonction des réalités visibles qu'on peut toucher. Parce que le christianisme, ce n'est pas quelque chose de physique, de géographique. Il ne faut pas aller quelque part pour devenir chrétien. Mais il faut placer sa foi en Jésus. Et en le faisant, on ne s'approche pas de quelque chose de physique, mais de réalités spirituelles qui sont bien plus grandes que tout ce qu'on pourrait avoir sur cette terre. Comme le montre ce passage, on prend part à un rassemblement céleste et glorieux. On rejoint une foule d'anges et des millions de chrétiens qui nous ont précédés. On s'approche de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Et ça, c'est bien meilleur, même si ce n'est pas visible. Ou peut-être qu'on se sent seul en tant que chrétien dans le monde dans lequel on vit. Le christianisme nous paraît bien petit, bien faible. On est noyé dans la masse. Moi, seul chrétien de mon école, seul chrétien au travail, seul chrétien dans ma famille. Et puis on prend du recul, on ouvre les yeux sur les réalités spirituelles. Et on réalise qu'on n'est pas seul. On prend conscience de ce qui est en train de se passer alors qu'on s'approche de Dieu par la foi en Jésus. Un rassemblement céleste, glorieux. Des milliers d'anges qui louent Dieu et on prend part à cela. Quand on prend en compte les réalités spirituelles, on réalise qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand, de bien plus glorieux, et qu'on n'est pas seul. Au final, avec ce passage, on pourrait dire que la foi chrétienne, c'est un peu comme un kiwi. C'est un Jonathan Meyer, un pasteur à Genève, qui a donné cette illustration par rapport à l'Église il y a quelque temps, mais je trouve qu'elle s'applique bien à ce passage et à la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est un peu comme un kiwi, parce qu'un kiwi, de l'extérieur, ça n'a pas l'air très impressionnant. C'est petit, c'est ovale, c'est marron, il y a des poils. C'est pas ça qu'on va mettre chez nous sur l'étagère, c'est pas très impressionnant. Et puis on ouvre le kiwi, et waouh, c'est vert fluo. Il y a des traits partout, on dirait une œuvre d'art, vraiment. Regardez, un kiwi, la prochaine fois que vous l'ouvrez, c'est impressionnant. Et c'est un peu pareil avec la foi chrétienne. De l'extérieur, peut-être que ça ne nous paraît pas très impressionnant. Ça nous paraît peut-être même un peu faible, on se dit « bof ». Et puis on prend le temps de regarder à l'intérieur, on prend le temps de considérer les réalités spirituelles, on prend le temps de regarder ce qui est en jeu dans la foi chrétienne. Et là, waouh, on réalise qu'il n'y a rien de meilleur que ça, qu'il n'y a rien de plus grand, que c'est réellement impressionnant. Donc pensons-y la prochaine fois qu'on va au supermarché et qu'on voit des kiwis. Et puis l'auteur, il va continuer, il va terminer ce passage en mettant en avant une dernière réalité, qui est à la fois un avertissement et un encouragement pour ces chrétiens hébreux, mais aussi pour nous. C'est le fait que seul ce qui est inébranlable va rester. Alors regardez au verset 26, il va dire que Dieu va parler encore une fois, et ce d'une manière définitive. Dans le verset 26, regardez avec moi, il écrit, en parlant de Dieu, sa voix ébranla alors la terre, ça c'est ce qui s'est passé dans le mont Sinaï, et maintenant Dieu nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Tout comme c'était le cas au mont Sinaï, Dieu va parler et la terre va trembler. Mais ce coup-ci, ce ne sera pas simplement la terre qui va trembler, mais aussi le ciel, c'est-à-dire tout l'univers. Et ce n'est pas quelque chose qui va se répéter, mais c'est quelque chose d'unique, de définitif. Il est dit une fois encore, juste une seule fois, plus qu'une seule fois. La conséquence de ça, on voit dans le verset 27, ces mots « une fois encore » montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Tout ce qui appartient au monde créé va disparaître et seulement ce qui est inébranlable, ce qui demeure, va rester. Ces versets font référence à la fin des temps, quand Jésus reviendra et que Dieu mettra fin à ce monde terrestre, tout va disparaître, sauf ce qui est inébranlable, c'est-à-dire tout sauf le royaume que l'on reçoit en tant que chrétien. Tout va disparaître, sauf les réalités spirituelles que l'auteur a décrites dans les versets 22 à 24. Le rassemblement céleste auquel on prend part, ça, ça va rester, ça va demeurer. Et cette réalité, c'est à la fois un avertissement et un encouragement pour ces chrétiens et pour nous. C'est un avertissement parce que ça veut dire qu'il faut s'attacher aux réalités spirituelles et pas aux réalités terrestres. Si ces Hébreux se détournent de Jésus et retournent en arrière, ils vont tourner le dos à ce royaume inébranlable et ils vont retourner à quelque chose qui va finir par être détruit. Il ne faut pas faire ça. C'est un avertissement aussi pour nous à ne pas investir nos vies dans des choses passagères, dans des choses éphémères. On est habitant de la cité céleste, d'un royaume inébranlable, et pas de ce monde. On est juste de passage sur cette terre, donc ne nous attachons pas à ce monde ici-bas. À la fin des temps, seulement les choses inébranlables vont rester, et tout le reste va disparaître. C'est un peu comme si on passait tout à la passoire, et seulement les choses éternelles vont rester. Charles Studd, un missionnaire anglais, il a écrit un poème magnifique, dont le refrain, il dit ceci. « Une seule vie, qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. » Mais ces versets, ils sont aussi un encouragement à persévérer, à tenir bon, à continuer la course, à pas abandonner. Parce qu'il y a un royaume inébranlable, il y a une cité céleste et glorieuse qui nous attend. Et quel encouragement de savoir ça. C'est un peu comme si vous étiez en train de courir le marathon de Bruxelles en ce moment, et puis vous voyez la ligne d'arrivée qui s'approche, elle est là, vous la voyez de vos yeux. Ben, ça vous encourage à tenir bon. Vous voyez la fin qui arrive. Et c'est la même chose ici. On voit ce royaume céleste et glorieux qui s'approche petit à petit. La fin va arriver. Alors tenons bon, continuons la course. Et peut-être que là on peut se dire, mais je pensais qu'on s'était déjà approché de cette cité céleste, qu'on y était déjà dans ce royaume glorieux, et là on nous dit que ça va venir. Comment ça se fait? Et c'est vrai qu'on voit les deux dans ces versets. D'un côté, par la foi en Jésus, on s'est approché de la Jérusalem céleste, on en est devenu les habitants, mais de l'autre côté, on n'y est pas encore physiquement. Et ce royaume, il est encore à venir. Et c'est une tension qu'on retrouve souvent dans la Bible par rapport à la fin des temps. Le déjà, mais pas encore. On est déjà là-bas dans un sens par la foi, mais on n'y est pas encore pleinement. C'est encore à venir. On attend. On va un jour recevoir pleinement ce qu'on a déjà maintenant par la foi. C'est un peu comme si on était en déplacement professionnel ou en voyage. On sait que là où on est, ce n'est pas le vrai chez nous. On sait qu'on n'est pas à la maison. On sait que notre maison, c'est ailleurs et qu'on va y retourner. C'est juste une question d'un peu de temps. C'est pareil pour nous en tant que chrétiens. C'est juste une question d'un peu de temps. Et en attendant ce un peu de temps, on est encouragé à persévérer, à continuer la course, en gardant les yeux fixés sur cette cité céleste qui nous attend. Je vais juste lire le verset 28 et puis on va terminer en priant. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alors peut-être qu'on se dit comment rendre à Dieu un culte qui lui est agréable ? Eh bien on aura la réponse la semaine prochaine avec le chapitre 13 de la lettre aux Hébreux. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que nous avons par la foi en Jésus. Nous te remercions parce que nous ne sommes pas seuls, mais nous prenons part à un rassemblement céleste et glorieux. Nous te remercions pour toutes ces choses impressionnantes qu'on a vues qui sont à l'œuvre alors que l'on croit en Jésus. Nous te remercions parce que toutes ces choses-là, tu nous les as données par grâce, en raison du sang de Jésus qui a été versé. On te remercie parce que c'est lui qui est notre Sauveur et notre Seigneur, c'est lui qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Et on te prie que tu nous aides à garder les yeux fixés sur lui, jour après jour. On prie en son nom et pour sa gloire. Amen.